bien bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle chronique de la librairie des étudiants. Quel talent riche et brut se renferme dans des femmes de l'ombre? C'est avec cette question que nous allons ouvrir aujourd'hui cette biographie que je vous propose. La vie rêvée de Séraphine de Senlis, écrit par Françoise Cloarec, est publiée aux éditions Phébus depuis 2008. Et pour parler aujourd'hui de cette biographie, et aussi de peinture bien évidemment, je ne suis pas seul dans le studio de Radio Campus Grenoble. Mon invitée du jour est artiste peintre et elle vit en Ardèche. C'est aussi elle qui m'a offert ce livre. Bonjour Gabrielle.
Bonjour Thomas.
Un très grand merci d'être venu ici au micro de la librairie des étudiants et surtout d'avoir accepté mon invitation pour parler ensemble de cette biographie assez intéressante, étrange aussi, et aussi de cette peinture, de cette peintre, de Séraphine de Senlis. Alors, avant d'aller un peu plus loin, je vais me permettre une petite coquetterie. Car, pour tout vous dire, mon invité du jour est aussi ma grand-mère. Alors je vais corriger la phrase que je viens de prononcer il y a quelques instants. Merci mamie d'être venue à ce micro. Voilà, je voulais souligner cette petite coquetterie parce que je trouve ça quand même très amusant de pouvoir en parler à la radio. Chers auditeurs, chères auditrices, en compagnie de ma grand-mère Gabrielle, entrons dans la vie colorée de Séraphine de Senlis. Alors nous allons ouvrir cette chronique en vous résumant assez brièvement la biographie de Séraphine. Je vais commencer, si je peux me permettre. Donc Séraphine de Senlis, mais de son vrai nom de famille Louis, née le 3 septembre 1864 dans l'Oise. Elle est le quatrième enfant de ses parents. Sa mère, Victoire Maillard, fait le ménage de main dans diverses fermes. Et son père, Antoine Louis, est un ouvrier agricole qui passe aussi du temps comme horloger chez des particuliers. C'est une famille qui va être assez rapidement endeuillée par la disparition de sa sœur Clarentine, mais aussi de son frère Alfred, puis, une année après la naissance de Séraphine, par la disparition de sa mère. En 1871, c'est son père qui décède. Elle se retrouve donc orpheline à 7 ans, et elle va vivre avec sa grande sœur Argentine, mais dans une très grande pauvreté. Elle va suivre bien sûr des cours à l'école, où elle est assidue, et aussi elle passe son temps à dessiner. Son professeur va même lui dire que ce n'est pas vraiment le dessin qui va lui faire une belle vie, car à cette époque-là, les femmes sont surtout vues pour être derrière les fourneaux ou pour tricoter des vêtements. À 18 ans, elle va entrer dans un couvent, et pendant plus de 20 ans, elle va y rester. C'est son premier moment hors du temps qui va être entouré par des femmes religieuses. C'est ainsi qu'en 1902, après 20 ans dans un couvent, elle va le quitter pour retrouver le monde, le grand monde extérieur, sans que l'on sache aujourd'hui encore pourquoi. Elle va s'installer à Senlis, une ville non loin de Paris, et va reprendre un métier de bonne auprès de familles aisées. Et aussi, parallèlement, la nuit, un peu le dessin. En 1905, à 42 ans, elle entend une voix. D'après elle, c'est celle de la Vierge Marie qui lui dit de dessiner. Séraphine, pieuse et croyante, retourne le soir, après son travail de ménage, à des dessins et à ses toiles. Lorsqu'elle souhaitera prendre des cours, Charles Allot, illustrateur reconnu de l'époque, lui dira qu'elle n'a pas besoin de cours de dessin, car visiblement, elle a déjà un peu de technique. Et puis, il y a un autre homme qui va rentrer dans sa vie et qui va l'apporter. Wilhelm Hude, aristocrate allemand qui a parcouru Paris pour dénicher de grands peintres, comme par exemple Picasso, va croiser son chemin. Lui, qui va passer son temps à amasser des tableaux pour créer une grande collection de toiles, va être frappé par la technique de Séraphine. En s'installant à Senlis, dans une maison de campagne, il va donc découvrir ses fameuses toiles. Il deviendra alors son mécène, avant qu'il ne soit rattrapé par la Première Guerre mondiale. Il se sent visé en France par de multiples attaques et rentre alors en Allemagne, avant de devenir, après-guerre, un acteur majeur pour la République de Weimar, prenant le pacifisme en Europe. Sa collection, qui elle était restée à Paris, sera alors vendue aux enchères. Séraphine, se retrouvant de nouveau seule, reste à Senlis pour peindre inlassablement. Et puis quelques années plus tard, en 1927, le même illustrateur, Charles Allot, qui avait dit à Séraphine de ne pas prendre de cours de dessin, va la pousser à participer à une exposition à Senlis. Le jury est époustouflé devant la technique, la force et le talent de Séraphine. Les critiques d'art, quant à eux, ne disent pas un mot sur elle, alors que tous les autres journalistes, qui sont beaucoup moins spécialisés, vont parler. Wilhelm Hude revient d'Allemagne en 1927 pour recommencer une collection d'art. Lorsqu'il apprend qu'une grande exposition est organisée à Senlis, il s'y rend et retrouve Séraphine. Émerveillé par le reste de la production et la force intacte qui se dégage de nouvelles toiles, il décide de la financer à 100% dans ses travaux. Séraphine va peindre jusqu'à 4 toiles par semaine et va apprendre aussi que des articles d'art parlent d'elle dans le monde entier, allant de Paris à Londres et même de Berlin jusqu'à New York. Cet enrichissement soudain et son rythme de dépenses malgré la grande crise économique de 1929 vont la plonger dans des dettes. Elle commence aussi à devenir suspicieuse vis-à-vis des autres, ne mangeant que rarement. Un soir de 1931, elle déménage à la hâte, seule, ses affaires devant la gendarmerie de Senlis. Un premier grand coup de tonnerre surgit dans sa vie. En 1932, elle est déménagée à Clermont-de-l'Oise, dans un asile, internée pour paranoïa et crise de démence. Pendant 10 ans, jusqu'en 1942, elle passera son temps à écrire sur sa vie et sur sa jeunesse. Plus jamais elle ne touchera à un pinceau jusqu'à sa mort en 1942. Les temps sombres et difficiles de la guerre feront qu'elle sera enterrée à la hâte dans une fosse commune. À la fin de la guerre et à la fin de l'année 1945, Wilhelm Hude organise une grande exposition à Paris nommée Séraphine Louis, dite Séraphine de Senlis. Son ami et mécène de toujours entretiendra sa mémoire jusqu'à sa mort. Voilà pour le résumé de la biographie. Est-ce que tu as des petites choses à rajouter, à compléter, ou est-ce qu'on...
Je trouve que c'est tout à fait complet ce que tu as décrit, oui.
Bon, alors
on peut continuer.
On va se retrouver après une toute petite pause musicale et on pourra ensuite détailler toute la vie de Séraphine.
D'accord.
Thank you.
Et nous sommes de retour dans les studios de Radio Campus Grenoble 90.8. Nous venons d'écouter la partie du Lacrymosa, du Requiem de Mozart. Et nous sommes aussi de retour avec mon invité, Gabriel, pour parler ensemble de la biographie du jour. La vie rêvée de Séraphine de Senlis par Françoise Cloarec. Alors j'aimerais peut-être qu'on parle un peu de ce choix de musique qui dénote oui. tout à fait, parce que quand même on a parlé, le Requiem de Mozart n'est pas quelque chose de très, très joyeux, mais je crois qu'on peut en faire un lien avec le film qui avait été réalisé justement sur Séraphine.
Joué par Yolande Moreau, qui est extraordinaire dans ce film, qui interprète à la merveille cette grande artiste lumineuse, Séraphine.
Mmh. Donc le film est sorti en 2008.
Et ce morceau de Mozart est dans le film, pendant que Yolande Moreau, la nuit, peint, inspirée par les anges et qui dédie sa peinture à la Vierge Marie.
Donc une partie très axée sur la religion, en tout cas.
Oui.
On aura l'occasion d'y revenir. Donc pour les plus curieux d'entre nous, le film est sorti en 2008, disponible bien sûr un peu partout, réalisé par
DVD.
Martin Provost. Voilà, disponible en DVD, qui Yolande Moreau et Ulrich Tucker dans le rôle de Wilhelm Hud. Donc nous allons maintenant entrer dans cette deuxième partie de cette chronique pour parler un peu plus en profondeur de la vie de Séraphine et de toutes ces étapes importantes dans sa production artistique, tout en portant avec toi un regard sur son œuvre. Et d'abord, cette petite question tout à fait simple, pour commencer. Mmh. Séraphine, peignait-elle à l'eau ou à l'huile?
Ça, c'est une bonne question. Elle avait commencé très jeune à peindre à l'aquarelle et à la gouache, mais elle a très vite inventé ses propres matériaux et ses outils, et elle peignait à l'huile, à la ripolin.
À la ripolin.
À la ripolin qu'elle allait acheter chez un droguiste. Mais pas seulement à la ripolin. Elle ramassait aussi des terres colorées. Elle y mélangeait des plantes. Elle allait chez le boucher récupérer du sang, certainement fascinée par la couleur rouge. Et elle faisait ces mélanges qu'elle tenait secrets. Et d'ailleurs, en bas de son escalier, dans sa maison, quand elle peignait, elle écrivait, elle avait mis un panneau écrit « Mademoiselle Séraphine ne reçoit pas ». Elle peignait surtout le soir et en chantant des cantiques, en ayant bu son petit vin de santé, comme oui. elle disait, qui visiblement la mettait en joie. Et elle chantait des cantiques qu'elle avait appris tout au long des années qu'elle avait passées au couvent. Alors elle peignait beaucoup de fleurs, de fruits, des pommes, des cerises, des feuilles. C'était son imagination. Elle inventait aussi des fruits. Elle leur apportait, avec ses arrangements, des capacités plus grandes, plus poétiques. Elle pratique beaucoup la courbe et la spirale. Ses couleurs sont des jaunes éblouissants, du rouge, des bleus profonds, sourds et pénétrants. Des verts multiples, le vert, c'est la couleur la plus étendue parmi toutes les couleurs. Des pourpres violacées, sombres, avec des veines rougeoyantes. Et sa pâte est lourde, avec beaucoup de couches en relief intense. Mmh. Le blanc est parfois teinté de rose. Et le ripolin est utilisé à l'état pur.
Le ripolin, pour les plus novices d'entre nous, ça s'apparente à quoi comme...
C'est une peinture à l'huile. Aujourd'hui, on pourrait dire le ripolin, c'est la peinture à l'huile qu'on met sur les murs ou sur les portes. Souvent.
D'accord.
C'est une peinture brillante. Mm-hmm. Elle utilisait aussi des glacis dont on sait pas la composition. Les glacis, c'est une manière de diluer la peinture pour la rendre transparente. Et en superposant les couches, on voit les couches souterraines. Ça donne de la profondeur à la peinture. Mm-hmm. Donc, elle utilisait ça. Mais on ne sait pas, exactement ce qu'elle utilisait. Mais les transparences font penser à celles de Chardin, le peintre.
Donc toutes ces techniques ne sont pas connues aujourd'hui.
Non, ne sont pas connues. Elle utilisait des terres qu'elle allait chercher au bord de la rivière. Certainement des terres chargées d'oxyde rouge, d'oxyde métallique, noir et rouge, vers... Donc on ne sait pas, il aurait fallu la suivre à la trace.
Donc ça restera le mystère.
Ça reste un mystère.
Un des mystères de Séraphine.
Oui.
Il y a une chose intéressante que j'aimerais souligner quand on ouvre cette biographie, c'est que Françoise Cloarec commence par parler donc de son prénom, tout de suite, qui est un prénom construit sur le terme de séraphin. Donc les séraphins, ce sont les anges qui sont les plus proches de la présence divine et qui sont également présents dans les trois religions monothéistes. Est-ce qu'on peut se demander si elle n'était pas promise à quelque chose de grand, finalement, peut-être quelque chose de réellement divin, par le choix de ce prénom de ses parents, même si rien ne la prédestinait.
Alors, seul l'inconscient pourrait répondre, mais comme il est muet, on n'a pas la réponse.
Donc on a dit un parcours étonnant, 20 années passées dans un couvent entouré de nonnes et de sœurs. La religion va la suivre tout au long de sa vie. Séraphine est donc restée très proche de la religion. Elle ne rate aucune messe tout au long de la semaine, c'est ce qui nous est précisé dans la biographie. Elle prie beaucoup, jusqu'à ce fameux jour où elle reçoit l'ordre de peindre. Mais ce n'est pas un ordre anodin. Elle associe cela à la Vierge Marie et elle va donc commencer à peindre. Ce qui est curieux, est-ce qu'on ne retrouve pas vraiment cet aspect religieux dans ses toiles. On n'a pas de présence qui pourrait faire penser de forme à des lieux de prière ou de recueillement. On reste toujours dans tout ce qui est de la nature, comme tu l'as dit, sur des fleurs, des fruits. Comment ça se fait qu'il y a un tel écart? Est-ce que c'est...
Je suppose que Séraphine était très inspirée par la nature parce qu'elle y a vécu enfant. Et son esprit lui-même était empreint de nature. Elle aimait les fleurs, les champs, les arbres, les feuillages. Elle aimait les animaux aussi. Elle avait vécu en présence d'eux. Donc elle était profondément liée à la nature. Je pense qu'elle en faisait partie de manière intégrale. Elle était la nature et elle était proche d'elle. Elle en a traduit les formes. Et je pense que c'était certainement plus fort que le reste, que représenter un pouvoir à travers une peinture dédiée à la religion. Mmh. Elle ne peignait que ce qu'elle était, c'est-à-dire proche de la nature.
Est-ce qu'à travers ces toiles, on ne peut pas voir une forme de son propre jardin d'Éden?
Certainement.
Qu'elle ait peint toutes ces formes, toute cette nature telle qu'elle, elle pouvait peut-être se le représenter.
Oui, parce qu'elle elle connaissait pas les peintres de son époque. C'est un esprit vierge qui entre en peinture. Et ce qui l'intéressait, c'était de changer le gris en couleur. Le gris en pétales, le gris en corolle, en pistil. Et elle s'est mise à peindre son mobilier, des objets de tous les jours, à la manière des peintres des pays alpins, des guirlandes de fleurs champêtres, stylisées, arrangées. Elle utilisait des rouges, enfin elle utilisait des bleus, comme j'ai dit tout à l'heure, des verts. Et je pense qu'elle était exaltée, elle était guidée à peindre, mais on ne lui disait pas quoi peindre. Donc elle peignait ce qu'elle avait vécu le plus proche d'elle, la nature.
Est-ce que finalement, elle s'est quand même construite toute seule?
Oui,
effectivement. Elle n'a pas suivi de cours de dessin, elle s'est faite toute seule, ses propres armes.
Je pense que c'était un esprit libre qui ne pouvait pas subir un enseignement strict. Et son être profond était libre et elle exerçait la peinture comme elle respirait.
Est-ce que tu pourrais me parler, nous parler même plus généralement, de l'aristocrate allemand de Wilhelm Hude, qui est comme un personnage central dans sa vie? Quel rôle il va jouer tout au long de sa vie et de cette carrière artistique?
C'est vrai que c'est un personnage extrêmement intéressant dans le monde de l'art, puisque allemand, il vient à Paris après ses études sur l'art. Il fréquente les galeries Durand-Ruel, Vollard, Bernheim Jeune, Paul Rosenberg. Et il achète, pour commencer, deux tableaux de maîtres anciens qu'il revend tout de suite très cher. Donc il a commencé une collection de tableaux et il s'intéresse déjà au premier tableau de Picasso. Et puis il découvre Braque, Dufy, Derain, Delaunay. Il se passionne pour cette nouvelle peinture. Mais il organise aussi la première exposition d'Henri Rousseau. Et puis ensuite, il en a organisé d'autres en Suisse, avec Picasso, Braque et Rousseau. Et quand il s'est installé à Senlis, il s'est sensible à la lumière de cette région. Sa femme de ménage, comme tu as raconté déjà, peignait. Et il est tombé en arrêt devant sa peinture et il lui a acheté... parce qu'il a été surpris par la force de l'expression, de la couleur et la puissance de la matière. Et justement, cette ode à la nature, aux fleurs, aux plantes, qu'elle extrapole, qu'elle peint avec son originalité et sans code académique classique, avec sa propre énergie. C'est ce qui ressort essentiellement de sa peinture. Il y a une joie profonde puisqu'elle peint en chantant, elle peint, les anges la guident, donc elle est dans un état, je pense que le petit vin aussi doit aider, mais je pense qu'elle est dans un état de joie absolue. Elle est libre, elle est seule, elle a fermé sa porte, personne ne doit la déranger, et elle est dans son idéal de vie.
Et donc lui va l'aider, elle va la... Il va la financer après, plus tard.
Voilà. Donc, il organise des expos. Il lui envoie aussi du matériel. Bon, surtout les grandes toiles. Elle réclamait des grandes toiles parce que, quand même, il lui donnait des conseils, mais aucune indication, par exemple, de choix de peinture, de sujet ou quoi que ce soit. Il l'a laissé entièrement libre, mais il a tout fait pour qu'elle puisse peindre tranquillement. Elle ne faisait plus de ménage. Et puis, il a commencé à vendre des peintures, donc ça la mettait aussi à l'aise financièrement.
Tu es devenu en quelque sorte un mécène, finalement, pour
Ah, c'était plus qu'un mécène, oui, c'était vraiment un découvreur, oui, un inventeur, on dit.
Oui, parce qu'il a quand même découvert beaucoup de talents. Tu l'as dit, Picasso et tant d'autres. Dans la biographie, c'est justement précisé qu'il achète un tout petit tableau signé d'un simple P, et quelques années plus tard, c'est Picasso qui lui dit « mais c'est ma première toile ».
Oui, il était fasciné par Rousseau aussi. Il les appelait les maîtres primitifs. Et moi, je songe toujours aux peintres de la grotte Chauvet et ces peintres qui sont nos ancêtres vraiment très, très lointains, qui avaient déjà la puissance du trait. Et je pense que William Hood était sensible à cette force qui émanait de sa personnalité, parce qu'elle était quand même hors du commun. D'un milieu extrêmement pauvre, absolument pas cultivé, mais qui avait en elle un germe de la création et de sortir de, certainement pas consciemment, mais de sortir de son état de femme de ménage et de devenir elle-même, c'est-à-dire une artiste.
De s'accomplir par la peinture,
finalement. S'accomplir par la peinture, oui.
On dit souvent que les grands artistes, que ce soit en littérature, dans les arts, plastique ou même en musique, sont souvent seuls dans leur processus de création. Donc là, on a l'exemple parfait avec Séraphine, avant qu'ils ne retrouvent le monde extérieur. Et là, ce qui est quand même assez marquant, c'est qu'elle, elle sort de chez elle, bien sûr, quand elle ne produit pas et quand elle n'a pas encore tout le mécénat donné par Wilhelm.
Oui.
Et donc, elle travaille, mais elle reste quand même assez discrète dans les biographies. C'est ce qu'ils nous disent, qu'elle a quand même tendance à un peu longer les murs, ne parler à que très peu de monde.
Oui.
Et puis d'un coup, elle explose le soir en peignant. Est-ce que cette forme de solitude, journalière en tout cas, ne serait pas un parallèle, ou du moins une marque, comme une trace des 20 années passées dans le couvent ? Le fait d'être dans un monde, donc dans le sien, dans la peinture, et quand on sort de ce monde, vraiment côtoyer très peu de monde possible. Est-ce que c'est pas aussi peut-être un...
Je pense qu'elle avait souffert dans ce couvent. Elle avait souffert des relations. Elle dépeignait quand même le couvent. Les relations des religieuses entre elles étaient dures. Elle a assisté à des scènes pénibles. Et finalement, sa seule consolation, c'était d'aller se promener dans les champs, de parler aux plantes. Elle parlait aux fleurs, je connais ça. Elle parlait aux animaux. Et c'était son véritable bonheur. Je pense qu'elle s'écartait de tout ce qui pouvait lui faire de la peine. Mm-hmm. Parce qu'elle avait subi quand même des moqueries autour de chez elle. Les enfants criaient sous ses fenêtres, puisqu'elle était un peu différente des gens du village. Elle subissait des moqueries quand même.
Moi, j'aimerais voir aujourd'hui l'aspect qui nous reste d'elle, parce que finalement, je me demande si c'est pas un peu une erreur de ne pas vraiment parler d'elle. J'ai trouvé que dans les médias, et même dans les manuels d'histoire de l'art, je parle bien sûr en règle générale, pas parce qu'il y a des ouvrages qui lui sont consacrés aujourd'hui, mais ceux qui sont en termes généraux, on passe assez vite, ou alors on ne parle pas vraiment d'elle. Ce qui est quand même assez étrange, parce qu'elle est du siècle de Matisse, de Picasso, du douanier Rousseau, comme on a pu le dire. Et pourtant, elle et toute son œuvre est quand même assez passée sous silence. Est-ce que ça peut être à cause de sa peinture, qui est si foisonnante ou si riche, qu'on en parle un peu moins que les autres, du fait qu'elle n'est peut-être pas rentrée dans une norme classique? Qu'est-ce qui fait qu'on a tendance à un peu l'oublier, à ne pas parler d'elle?
À ne pas parler d'elle, oui, c'est vrai que, il y a des modes en art. Il y a des modes en art, et c'est vrai que l'art conceptuel, tout ça, toutes ces dernières années, ces 30 dernières années, même 40 dernières années, la peinture était passée sous silence. On ne parlait plus de peinture. Bon, on m'avait déjà dit, tu peux ranger tes pinceaux, la peinture est morte.
Ah bon?
Je ne cite pas qui c'était quelqu'un de très connu dans le domaine de l'art.
Ah, on taira les noms alors.
Non, on ne dira pas. Mais je pense qu'il existe quand même en France et ailleurs des courants d'art. Il y a des expositions qui existent d'art singulier, d'artistes qui œuvrent et qui font de la peinture, pour qui la peinture est leur raison de vivre. Le tableau, les couleurs, les pinceaux restent quelque chose de très fort. Alors, pourquoi elle n'est pas connue? Écoutez, alors là, je sais pas répondre exactement à cette question. Mais la vie, c'est un balancier hein, qui balance à droite, à gauche. Puis des fois, la peinture va... Je pense que moi, la peinture n'est pas morte. Elle ne mourra jamais. Parce que c'est l'expression de la sensibilité... de l'inconscient aussi, la plus pure qui soit, le geste de peindre, le geste de dessiner. Il y a l'ordinateur, bien entendu, mais ça ne remplacera pas l'âme de l'artiste ou de l'être humain.
Donc, toujours cette sensibilité, du coup, à chercher pour produire, pour créer.
Oui, parce que chaque être humain a son univers et exprime sa sensibilité, ses sentiments. Son histoire, ses préoccupations, sa vision du monde, consciente ou inconsciente. Oui, je pense que ça ne s'arrêtera jamais.
Et donc comment elle pourrait ressortir cette sensibilité, cette force dans les toiles de Séraphine, de Senlis? Qu'est-ce qui pourrait...
Alors, ce qui ressort, c'est le foisonnement des couleurs, c'est la répétition aussi des formes, et puis sa densité. Son épaisseur aussi, puisque elle utilise beaucoup de matière. Et puis, je ne connais personne qui n'a peint comme elle. Une fois que... Quand la maladie a pris le dessus sur sa santé, elle n'a plus peint. Donc, elle a peint tant qu'elle était vivante, consciente, joyeuse, heureuse, et qu'elle pouvait exercer son art. À partir du moment où la maladie a pris le dessus, la peinture a disparu. Elle a arrêté de peindre.
Ce que j'allais faire comme parallèle, finalement, c'est qu'elle a un peu une vie comme Rimbaud, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup produit, beaucoup créé, et une fois qu'elle est tombée malade, elle a arrêté. Rimbaud, c'était différent, parce qu'il a cessé d'écrire du jour au lendemain, plus une ligne.
Oui.
Et elle, il y a quand même eu quelque chose d'étrange, c'est ce qui s'est inversé. Elle a arrêté de peindre, elle a commencé à écrire des carnets, ce qui d'ailleurs est ponctué dans la construction de cette biographie.
Oui.
Donc ce qui est aussi assez... émouvant de voir aussi le témoignage de Séraphine, de voir son regard sur ce qu'elle a pu vivre, ce qu'elle a pu traverser, mais elle ne parle pas vraiment de sa peinture.
Non, c'est vrai.
Comme si elle avait vraiment coupé les ponts, ne serait-ce que par la production, mais aussi la pensée.
La pensée, le geste aussi, la préoccupation. comme elle était enfermée, elle ne pouvait plus non plus aller chez le droguiste négocier un kilo de Ripolin, ni aller au bord de la rivière pour recueillir les terres colorées qu'elle avait besoin. Donc elle était privée de liberté, mais on était obligé de la protéger contre elle-même. Et finalement, elle a écrit, mais elle a écrit pas tout le temps, parce qu'il y avait des états où elle était complètement absente. Donc des états, abattus, ne bougeant plus. Donc elle a écrit par moments. Elle n'a pas écrit tout le temps.
Comme assez tragique de voir une fin comme ça pour une artiste, surtout quand elle est partie de rien, comme on a pu le dire. Elle arrivait comme au sommet de son art en étant après reconnue et appréciée par beaucoup.
Oui.
Et finalement de partir comme ça...
Elle devait plus se rendre compte, je suppose. Elle devait plus se rendre compte et elle avait vécu le plus beau. Donc je pense que la maladie la mettait dans un autre monde. Mm-hmm. Pas dans le monde des vivants, je pense pas. Donc elle ne pouvait pas avoir de regrets. À mon avis, elle était ailleurs.
Elle avait fini son cycle de peinture finalement.
Oui. Oui, parce qu'elle n'aurait pas été malade, elle aurait eu un regard différent, peut-être faire d'autres choses, je ne sais pas. Mais non, c'était la maladie qui était là, qui avait tout envahi.
On a parlé tout à l'heure du mouvement primitif. Et justement, dans la postface, Françoise Cloarec nous parle d'une dualité, d'un conflit entre les spécialistes de l'art, les historiens, qui cherchent à qualifier l'art de Séraphine comme voulant... la mettre dans une case spécifique, bien qu'on a pu le voir, c'est assez hors norme ce qu'elle a pu produire, ce qu'elle a pu penser. On a alors le choix entre l'art brut et l'art naïf. Donc on dit d'un art qu'il est naïf lorsqu'on lit la toile facilement, donc on arrive à ressentir une émotion, une lecture assez rapide. Mais ce qui n'est pas le cas de Séraphine, comme on a pu le voir, parce qu'elle est très forte dans sa production. Donc même face à une toile de Séraphine, on prend quand même du temps. L'œil prend du temps à analyser, à voir les petits détails et ce qui est peint. Et puis après, on nous parle d'art brut qui se qualifierait plutôt par un aspect de psychopathologie, donc de création par folie. Quelle est ta pensée sur ces deux notions et où est-ce que toi, tu arriverais à ranger Séraphine, si on arrive à la ranger, ou est-ce qu'elle a vraiment un mouvement à elle qui est vraiment singulier, parce que, comme tu l'as dit, depuis Séraphine, on n'a pas eu d'autres techniques, d'autres façons de peindre de cette même manière.
Mais je pense, je voudrais pas mettre l'art dans des cases, parce qu'il est la création reste la création, donc appelée à se renouveler, je pense. Mais dire qu'elle est, je suis pas critique d'art déjà, mais dire qu'elle est primitive dans le sens où elle n'obéit à aucun schéma classique. D'art brut, non, parce que c'était quelqu'un qui avait travaillé, qui avait été dans la société, qui était femme de ménage, qui était... c'était pas quelqu'un d'à part. C'était pas quelqu'un... Et elle communiquait avec William Wood. Et puis, elle n'était pas... Les artistes singuliers, bien souvent, certains ne parlent pas. Ils sont complètement enfermés dans leurs dessins, qui sont extrêmement répétitifs, beaucoup plus répétitifs qu'elle. Et elle sortait, elle allait chercher ses matériaux dans la nature et dans les magasins, dans les drogueries à l'époque. Mm-hmm. Non, je ne pense pas qu'elle soit... Elle est à part, elle est entre les deux. Moi, je dirais que c'est une artiste libre, inspirée profondément par le religieux, par la mystique, et qui avait un bonheur immense à peindre. Je crois que ce que je vois surtout, c'est une personne extrêmement heureuse à travers sa peinture. Son bonheur était là.
Donc il faudrait éviter d'écouter, en tout cas les grands critiques, pour mieux comprendre la peinture de Séraphine.
Je ne me sens pas capable de juger les critiques.
Parce que j'avais le dernier paragraphe de la biographie, j'ai trouvé ça très fort. Françoise Cloarec écrit ça. L'intérêt ici, c'est qu'à travers un discours, le lecteur soit conduit à regarder, à s'approcher des toiles de Séraphine. Il faut abandonner la description, l'interprétation, s'en délivrer et se laisser submerger par ce que l'on voit, ce que l'on ressent, céder au souffle qu'elle dégage. Est-ce que c'est pas aussi ça le secret et la force qui ont aussi séduit Wilhelm Hud au moment où il a rencontré Séraphine, de se laisser submerger par le...
Moi, je pense qu'elle... elle, alors, quand elle peignait, elle ne dessinait aucune ligne. Elle peignait directement. Et elle improvisait, elle laissait aller son imagination, qui débordait jusqu'au bout du tableau, et après, ben, il n'y a plus de tableau. Là, on peut plus, on s'arrête de peindre une feuille parce qu'il n'y a plus de toile. Et elle, elle laissait aller son imagination complètement. Et c'est ce côté-là, je pense, qui a plu à ce collectionneur de voir une artiste aussi libre. Et sans chercher à plaire, sans chercher à être dans un mouvement, ni puisqu'il lui donnait aucune consigne. Mmh. Simplement, il lui donnait des tableaux, des toiles, des supports et un peu d'argent pour qu'elle puisse vivre décemment.
Aujourd'hui, c'est quoi la place de Séraphine de Senlis dans l'art, dans le...
Je pense que c'est une place... Il les a mis ensemble, hein, Henri Rousseau, d'artistes qui sont... Classer les peintres, c'est fait pour les critiques d'art. Mais c'est pas fait pour... Non, je crois qu'il faut... Ils sont faits pour qu'on ressente de l'émotion, puisqu'ils peignent avec une émotion intense, libre de leur choix, de leur sujet, de leur conviction intime. Ils ne peignent pas pour plaire, ils peignent pour ce qu'ils sont et pour traduire ce qu'ils ressentent à travers des fleurs ou autre chose, pour eux-mêmes d'abord. Moi, je crois que c'est le plus important. Et peut-être que c'est si elle avait à donner une leçon à la peinture aujourd'hui, c'est soyez vous-même. Peignez ce que vous voulez, quand vous voulez, à l'heure que vous voulez. Soyez vous-même.
Sans dictat, en tout cas.
Sans dictat et heureux de peindre.
Ouais. Est-ce que tu as d'autres petits détails, d'autres petits secrets à nous révéler sur Séraphine de Senlis ?
Alors, sur Séraphine, je ne pense pas. Tu as dit beaucoup, beaucoup de choses. Mais ce que je peux dire, c'est qu'au musée de peinture de Grenoble, il y a une huile sur toile qui est exposée, elle s'appelle Les Fruits. C'est une taille quand même imposante, 92 par 73, et c'est un don de Wilhelm Hud en 1938. Et c'est le conservateur Audrey Farny qui était un pionnier de la reconnaissance de l'art naïf, qui en a hérité et qui l'a installé. Il est au musée de peinture de Grenoble. Vous, les Grenoblois, vous avez de la chance.
Bon, voilà. Bah, ça va être peut-être le conseil du jour qu'on va vous donner,
oui.
D'aller au musée de Grenoble et de découvrir Séraphine à travers cette première toile.
Voilà, cette toile, oui.
Et puis après, pour les autres, découvrir la biographie, bien sûr.
Oui.
Et ce film avec Yolande Moreau.
Qui est magnifique, qui est sublime, qui l'interprète merveilleusement bien, c'est extraordinaire. Franchement, moi j'ai vu le film, je ne sais pas, au moins 5 fois.
Ah oui.
J'ai acheté le DVD et de temps en temps je le regarde parce qu'il y a toujours quelque chose qui me parle, qui m'interpelle. Je trouve que c'est une belle aventure, ce livre et ce film. Très bien réussi.
Et même sa vie quand même, parce qu'on peut noter quand même, malgré la difficulté qu'elle a pu connaître à la fin de sa vie par la maladie, elle a été, à cause de la guerre également, elle a dû être enterrée dans une fosse commune. Donc on peut là aussi faire le lien avec Mozart, je pense.
Oui.
De l'artiste reconnu, apprécié, qui finit
dans
l'oubli de sépulture en tout cas.
On ne sait pas les lendemains qui chantent ou pas.
C'est impressionnant.
Oui. Donc il faut vivre sa vie et vivre avec ses émotions, les exprimer en art si possible. Tout le monde peut le faire.
À travers tous les arts en tout cas.
À travers tous les arts. Aujourd'hui c'est la fête de la musique.
Et en plus.
En plus.
Donc on ne vous repassera pas une deuxième fois Mozart, c'est promis. On va finir sur quelque chose d'un peu plus
rock.
Pétillant. Voilà, rock'n'roll. Est-ce que tu as d'autres choses encore à rajouter ou pas.
Mais écoute, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec toi. On en avait déjà parlé auparavant. Et cet échange avec toi qui est étudiant sur ce campus, et je félicite pour tes émissions.
Bon, ben voilà. Bon, en tout cas, ainsi va la littérature et les arts. Et je vous rappelle le titre de la biographie dont nous avons parlé aujourd'hui, La vie rêvée de Séraphine de Senlis par Françoise Cloarec, publiée aux éditions Phébus depuis 2008. Une belle biographie reprenant la vie d'une artiste peintre boudée de son temps et aujourd'hui adulée par son talent et la richesse de ses productions. Comme nous en avons parlé, il y a également un film qui est disponible, Séraphine, avec Yolande Moreau dans le rôle principal. Pardon. Un grand merci à toi, Mamie, d'être venue aujourd'hui dans les studios de Radio Campus Grenoble pour parler ensemble de cet artiste hors du commun et de toute cette passion, de toute cette peinture. Merci beaucoup.
Merci Thomas.
Quant à nous, chers auditeurs et auditrices, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur la même heure et la même antenne pour une très grande chronique de la librairie des étudiants où nous allons chercher ensemble un ou plusieurs livres pour passer un bel été en compagnie de la lecture. Vous pouvez bien sûr retrouver cette chronique et toutes les précédentes en balado-diffusion sur le site internet de Radio Campus Grenoble, rubrique La librairie des étudiants. Je vous souhaite à toutes et tous de belles lectures.